Alors pour celles qui n'auraient pas eu les feuilles sur les péchés capitaux, là, où donc il y a des suppléments. Nous sommes presque au milieu de la retraite. Pour certaines, elles vont peut-être être soulagées d'avoir fait leur confession donc ce matin. Bon, il ne s'agit pas de penser toute sa retraite à sa confession, bien sûr. C'est pour ça qu'on a, M. Abbé Troadec a eu la bonne initiative de vous libérer depuis plusieurs retraites, de libérer une demi-journée pour ne pas avoir constamment cette idée, la confession à faire. Et puis passer au côté pratique et aux conséquences d'une âme qui s'est confessée, qui est bien sûr du pardon de Dieu, de sa miséricorde, et puis qui doit prendre son envol dans le grand ciel de Dieu, grande lumière et l'air de Dieu. Alors ce matin, précisément, nous allons nous arrêter à ce qu'on appelle dans le catéchisme les trois vertus théologales. Vous dire ce qu'elles sont, bien sûr, ces vertus. Puis essayer de vous donner des moyens un peu concrets, pratiques, pour développer ces vertus. Le centre de ces vertus, évidemment, elles ont pour objet immédiat Dieu. Dieu, le bon Dieu. Nous savons par le catéchisme, je vous dis hier, un organisme surnaturel nous est donné avec la grâce. Voilà. Quand Dieu forme un corps humain, il donne des organes à ce corps humain, aussi bien formé que possible. Bon, il peut y avoir des accidents, un peu de la nature. Bon, nous savons, dans un corps humain, on peut naître handicapé. Enfin, en général, il nous donne une tête, deux bras, deux jambes. Bon. Eh bien, pour l'âme, c'est pareil. L'âme qui est intelligence et volonté, essentiellement, qu'il crée au premier instant de la fécondation, il met dans cette intelligence et cette volonté des pouvoirs d'agir. Même chez quelqu'un qui n'est pas baptisé, il a des pouvoirs d'agir. Un certain pouvoir pour être prudent, pour faire ce qui est raisonnable. Un certain pouvoir pour rendre aux autres ce qu'il en a reçu. Un certain pouvoir pour tempérer, modérer, user légitimement des biens sensibles, la tempérance. Un pouvoir naturel pour passer par-dessus les difficultés. Ça, c'est du naturel. Même les païens, les plus intelligents païens, savaient, un Aristote, un Platon, qu'il faut développer ces vertus, ce qu'on appelle ces pouvoirs d'action. Mais par le seul fait que nous sommes plongés dans la grâce, plongés dans la Trinité au moment du baptême, ces vertus prennent une coloration nouvelle. Elles deviennent des vertus morales surnaturelles. On ne va plus les pratiquer comme un simple païen pour un bien naturel qui est bon, que Dieu veut, mais pour un bien qui est surnaturel, qui dépasse infiniment la simple portée de la vertu naturelle. C'est-à-dire, par exemple, quand vous êtes vertueux comme un païen, vous avez un certain amour naturel de votre prochain, puisque vous avez été d'être juste envers lui, d'être tempérant par rapport à vos nécessités personnelles, d'être raisonnable dans les choses humaines, d'être fort, et cela est une bonne action naturelle. Mais quand vous êtes chrétien, ces mêmes actions naturelles, elles sont faites comme étant donner dans la justice à quelqu'un qui est quelque chose de Dieu. Quand je suis prudent surnaturellement, quand je suis juste surnaturellement, dans mon prochain, je vois quelque chose de Dieu, donc un motif supplémentaire de l'aimer, d'être prudent avec lui, d'être juste avec lui, d'être fort avec lui, d'être tempérant à son occasion. Bon, ça c'est donc en principe vertu morale, on dira plutôt l'objet du prochain. Mais aussi, je reçois quelque chose supplémentaire qu'on n'a pas, même en étant le plus vertueux des païens. Je reçois dans mon organisme surnaturel, Dieu dépose son œil dans mon intelligence pour que je voie Dieu un peu comme il se voit lui-même et que je vois toutes les créatures comme un peu comme Dieu les voit. déjà avec la foi, encore plus avec les dons du Saint-Esprit, dont nous parlerons tout à l'heure durant la messe. Il me donne son regard à lui, pour que je le connaisse un peu comme il se connaît lui-même, un peu et beaucoup et toujours, un jour. Le regard, la vision de foi. C'est de ça que nous parlerons, d'ailleurs, pour vous expliquer quelque chose qui est commun aux trois vertus, à toutes les vertus même. C'est très bien de parler du regard, justement. L'œil. Un œil humain. Des yeux humains. Hein, des yeux, vos yeux que vous avez. Qu'est-ce qui se passe quand vous voyez ? Quelle est la logique un peu de votre vision ? Bon, bah, voir, c'est d'abord voir quelque chose. Je vais peut-être dire une palissade, c'est voir ce qui est visible. Ah ben oui, ce qui est invisible, vous ne le voyez pas. Ce qui est radicalement invisible, c'est ce qui n'est pas l'objet du sens. Je vous donne un exemple. Avec le visible, vous voyez tout ce qui est matériellement visible. Si c'est trop petit ou trop grand, vous ne le voyez pas. Et puis si ce n'est pas matériel, vous ne le voyez pas non plus. Et plus radicalement encore, ce que nous voyons, ce n'est pas des choses qu'on entend ou qu'on goûte, même avec nos sens. Avec vos yeux, vous ne voyez pas un son. Ce n'est pas avec vos yeux que vous sentez une odeur. On est d'accord ? Bon, alors, donc, première chose, pourquoi je vous expliquais ça ? C'est très difficile de ne pas vous donner les termes techniques. Je ne sais pas si je vais résister à la tentation. Bon. J'essaie de le faire sans les termes techniques, puis je vous les donnerai peut-être après. Donc, avec les yeux, on voit tout ce qui est matériellement visible. Tous les objets matériels, en tant qu'ils sont visibles et sensibles, vous pouvez les voir. On appellera ça des objets matériels. Tout ce qui est matériel visible, pourvu que ce ne soit pas trop petit, pas trop grand, même en supposant qu'on ait un télescope ou un microscope, tout, visible. Ça, c'est les objets, tous les objets, donc tous les êtres en tant que matériel. Les objets matériels, bon, ça, c'est pas trop compliqué. C'est les deux suivants qui sont un petit peu plus délicats. Et c'est valable pour les trois vertus. J'en ferai l'application de cette analogie à nos sens. Donc, un objet matériel ou les objets matériels, c'est l'ensemble des choses qui sont le domaine propre, alors d'un œil, et puis de cet œil spirituel qui va être votre intelligence. Alors, pour l'œil, tous les objets matériels qui peuvent être vus par lui. On appliquera la foi tout à l'heure. Et même à l'espérance, la charité. On pourrait l'appliquer parce qu'il y a aussi une connaissance dans l'espérance et la charité. Précisément, c'est la foi qui donne qui fournit cet objet visible à l'espérance et à la charité. Maintenant, dans ces objets matériels que vous voyez, qu'est-ce qui, dans l'objet, dans les objets que vous voyez, qu'est-ce qui vous permet de voir les objets ? Dans l'objet, pas en vous, hein, attention, pas dans votre œil. Si vous êtes aveugle, si vous êtes daltonien, c'est... non, dans l'objet lui-même. Qu'est-ce qui vous fait voir un objet ? Alors pour ceux qui ont fait de la philo, là, qui ont lu l'être incurieux, oui, je sais, mon père, moi. Bon, qu'est-ce qui, dans l'objet, est visible ? La couleur. C'est d'abord et avant tout la couleur. On va me dire, mais il y a aussi les formes géométriques, les lignes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est quand même plus particulier. C'est plus particulier. Ce qui se voit dans l'objet, saint Thomas nous dit... L'objet propre, spécial, c'est la couleur. Mais mon père, s'il fait nuit. Ah, alors là, on va passer au troisième objet, au troisième aspect des choses. Mais donc, dans l'objet, c'est la couleur. Ce qui vous fait voir les objets, c'est les couleurs. S'il n'y a pas de couleur, vous ne voyez rien. L'air, vous ne le voyez pas, parce que précisément, il n'a pas de couleur. La lumière, à proprement parler, vous ne la voyez pas, sauf quand, justement, à l'occasion des couleurs, vous vous rendez compte qu'il y a de la lumière qui vient sur cet objet. Mais donc, c'est la couleur, le coloré. Donc, c'est ce que vous allez voir dans tous ces objets matériels. Ce que vous avez en premier, voilà, ce qu'on fait faire, par exemple, dans les exercices vitos, prendre conscience des couleurs. Monsieur, madame, là, vous êtes tout le temps ailleurs. Bon, vous voulez être présent, prenez conscience des couleurs qui sont autour de vous. Faites pas trop de distinctions, vous n'êtes pas en train de faire un cours de peinture. Recevez les couleurs qui sont autour de vous. Voilà. Alors, ici, c'est des couleurs, c'est pâle, c'est apaisant. On ne demande pas ça. Recevez. Ah, vous recevez le blanc. Bon, le blanc, les couleurs de vos vêtements, là, bon, les unes les autres, voilà. Je reçois la couleur. Couleur de la chose. Dans l'objet, la couleur. Ça va ? Bon, j'espère pas trop difficile. Je vous donne pas encore le terme technique qui correspond à ça. Donc, pour l'œil, grâce à la couleur, les objets matériels vont pouvoir être vus. Donc, les objets matériels, ce que je vois dans l'objet, la couleur, le coloré. Et troisième aspect, très important, j'ai beau avoir un œil, il y a beau y avoir des objets matériels que je peux voir, bon, si j'ai les yeux fermés, je ne vais pas voir, sauf avec mon imagination. Et puis l'objet matériel, s'il est trop loin, trop petit, trop grand, et surtout s'il est dans la nuit, je ne vais pas le voir. Je vais faire peut-être des bosses, ou buter, parce que je n'ai pas vu. Donc il faut quoi ? Pas seulement un œil, pas seulement un objet matériel, pas seulement une couleur qui est dans l'objet matériel, qui peut être vue par mon œil, il faut la lumière, le soleil, par lampe électrique, là, ici, ou le soleil, les grands luminaires, comme dit la Genèse. Voilà. Par la lumière, vous allez voir les objets matériels, et vous allez voir la couleur des objets matériels. Voilà. Bon, j'espère que ce n'est pas trop compliqué. Je pense qu'il n'y a pas besoin de vous donner les termes techniques après objet matériel. Bon, philosophie, ça a des noms, mais on laisse. Alors, nous allons appliquer ça, chers amis. À la foi, quels sont les objets matériels de la foi ? Qu'est-ce qui joue le rôle des objets matériels ? Pour mon œil, c'est les choses sonnées. Qu'est-ce qui joue le rôle d'objets matériels pour ma foi ? Eh bien, écoutez bien. Toutes les vérités que Dieu nous a révélées lui-même. Voilà. Quand un petit enfant du catéchisme dit, récite, a appris son « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. » Il dit toutes ces vérités matérielles. Il n'a peut-être pas encore une grande lumière. Il ne voit peut-être pas encore les couleurs et les nuances de ces choses. Mais il les sait matériellement. Dieu, Père, toc, Jésus-Christ, la Sainte Vierge, la vie de Jésus, le Saint-Esprit, la communion des saints, la rémission des péchés, etc. Il sait matériellement. Il voit toutes ces choses matériellement. Donc, tout l'ensemble des vérités que Dieu nous a révélées, toutes ces vérités. Alors, vous le savez, il y en a qu'on peut savoir naturellement. Par la philosophie, les grands philosophes, on peut savoir l'existence de Dieu, on peut savoir un certain nombre de choses sur le bon Dieu. Mais il y a des choses qu'on ne peut absolument pas savoir. Même les hommes n'auraient pas pu concevoir qu'un Dieu soit en trois personnes. Même pas en deux personnes, vous voyez, puisque les Juifs, hein, tel fils de Dieu, mais non, ça fait deux dieux, ça. Tu ne peux pas être le fils de Dieu. Un être humain ne peut pas dire qu'il est Dieu. Ça fait deux dieux. Bah, rien à faire, tu as ton Dieu du Père du ciel, puis il y a toi qui es sur terre, ça fait deux. Hein, avant qu'il y ait la Trinité, il y a eu la binité, hein, si vous voulez inventer un mot. Ben oui, oui, qu'est-ce que vous voulez ? Alors qu'on parle même d'Esprit Saint, non, alors là, c'est un peu... Bon, deux, ça faisait déjà beaucoup, maintenant un troisième, ça va bien, quoi. Heureusement qu'il n'y a pas de quatrième. Ce sera de plus en plus difficile à avaler. Bon. Bien. Trinité, on ne pouvait pas savoir. Impossible. Même s'il y avait des convenances, impossible. On n'aurait pas pu imaginer ça, concevoir ça. Un Dieu fait homme. Vous voyez la réaction des Juifs, un Dieu fait homme, hein, ça réagit. Et même ces musulmans, ils réagissent à ça. L'incarnation, ça passe pas. Alors, allons plus loin. Un Dieu, ce morceau de pain, c'est Dieu, là, ce truc rond, blanc, c'est Dieu. Ben oui. Ils sont abrutis, ces chrétiens catholiques, là. C'est des abrutis, quoi. Même les protestants pourraient dire, oui, bon, d'accord, faut pas exagérer, quand même. Bon. Et si, pourtant, c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que Dieu m'a donné son œil pour voir la Trinité. Ben, vous ne voyez pas, c'est vous qui êtes aveugle, c'est pas nous, c'est vous. Vous ne voyez pas. Un Dieu en trois personnes. Un Dieu fait homme. Un Dieu hostie. Une mère de Dieu. Quoi ? Une femme mère d'un Dieu ? Ça. Alors, deux façons, mère d'un Dieu. Soit je dis c'est absolument impossible, c'est ridicule. Soit j'essaie ce que font les païens, dire ouais, c'est la Vierge Mère des anciens cultes idolâtriques. Bêtasse. La mère d'un homme qui est Dieu. La mère de Dieu. C'est tout. Voilà. Par la foi, chers amis. Cette société d'hommes-là qui est ensemble, etc. C'est la société de Dieu. L'Église, c'est la société de Dieu.
Ouais, avec toutes leurs imperfections, ouais, les chrétiens, ils sont pas meilleurs que les autres.
Bêtasse. Le moindre des chrétiens de bonne volonté est meilleur qu'un païen. De bonne volonté, hein, un chrétien de bonne volonté, qui fait ses petits efforts pour prier, pour aller à la messe le dimanche.
Ouais, moi, je vais pas à la messe le dimanche, mais je suis bon avec mon prochain. T'es une bêtasse, parce que ton premier prochain, c'est Dieu.
T'es peut-être bon, meilleur, peut-être meilleur avec ton prochain, malheureusement, que certains chrétiens, d'accord. Mais en attendant, ils servent déjà le premier prochain. Et c'est la plus sûre assurance qu'ils aimeront leur second prochain, qui est effectivement ce pauvre être humain qu'il faut aimer comme, un peu comme Dieu l'aime. Vous voyez, toutes ces vérités, on ne peut pas par la raison. Alors, ce que va faire la révélation, ces objets matériels, Dieu va confirmer ce qu'on peut savoir déjà par notre raison, et il va nous apprendre des choses toutes nouvelles. On a des yeux nouveaux, là. Bon Dieu, tiens, prends mes lunettes et vois l'intérieur de moi comme moi je vois. Même mieux, je te donne mon œil. Fais ça maintenant, là. On dit qu'il y a un Padre Pio, là, il a guéri une malade. Elle voit, elle n'a rien ce qu'il faut dans l'œil, elle n'a pas les organes matériels pour voir avec. Là, un peu ce que c'est une belle image, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui doit agir à l'intérieur de cet œil. Il n'y a rien de ce qu'il faut. Il n'y a pas la, je sais pas, la, je connais pas bien l'ophtalmologie, mais il n'y a pas la pupille. Il n'y a pas ce qu'il faut. Il n'y a pas le nerf optique. Il n'y a pas ce qu'il faut. Et pourtant, elle voit. Pas mal. Alors, voilà. Avec la foi. Voyez comme elle est surnaturelle. Notre intelligence est comme divinisée par la foi. Alors, je vous ai donné que l'objet matériel. Hein, les objets matériels, c'est les choses que vous voyez maintenant. Rentre plus profondément. Et qu'est-ce que je vois? Je vous ai dit, j'ai commencé à vous le dire, même assez bien, enfin, assez en détail, je veux dire. Qu'est-ce que je vois spécialement avec la foi? Quelle est la couleur que je vois spécialement avec la foi? Et qui est si forte, si encourageante, si rassérénante pour notre intelligence? Je vois que Dieu est souverainement vrai. La couleur des objets divins, c'est qu'ils sont vrais. Dieu est vérité suprême. Le Père est vérité. Le Fils est vérité. Le Saint-Esprit est vérité. La Trinité est vérité. Dieu est vrai. Grâce à Dieu, je connais tout ce qui est sous la couleur, avec la couleur de celui qui est. J'ai dans mon esprit quelque chose, une pierre de touche très forte. La vérité même de Dieu qui m'habite, surnaturellement et naturellement. C'est pour ça qu'on ne trouvera pas d'homme plus intelligent que nos docteurs de l'Église catholique. Voilà. C'était déjà des grandes qualités naturelles, intellectuelles. Un saint Thomas d'Aquin, un saint Bonaventure, grand docteur de l'Église, un saint Albert, etc., un saint Augustin. Mais en plus, c'est habité par la vérité de Dieu. L'objet de la foi... La couleur de la foi, ce qui joue le rôle, la même chose que la couleur, ce vers quoi la foi va se porter en premier lieu, c'est Dieu, vérité suprême, première. Je suis sûr qu'il y a la Trinité, je suis sûr qu'il y a l'homme, que dit à l'homme Dieu. Je suis sûr qu'il y ait Jésus dans l'hostie. Je suis sûr qu'il y a une mère de Dieu. Je suis sûr qu'il y a une église, une société divine. Sûr et certain. Et comment? Parce que Dieu est vrai. Éminemment vrai. Il dit ce qui est. Il est celui qui est. Il pense le vrai. Il dit le vrai. Il ne mentira jamais. Il ne sera jamais en contradiction avec lui-même. Ce que ne peut faire aucun homme, même le plus intelligent de la terre et de meilleure volonté. Dieu ne sera jamais en contradiction avec lui-même. Éminemment logique, éminemment vrai. Vous savez qu'on définit la vérité un certain rapport de proportion entre la chose et ce qui est connu. La chose, c'est Dieu. Ce qui est connu, c'est Dieu par le moyen de Dieu. On ne peut pas se tromper. Et alors, on débouche sur à quelle lumière je vois ces choses colorées de la foi, ces vérités colorées qui ont une couleur, qui ont la couleur de Dieu, vérité. Qui ont laissé cette couleur vraie. La couleur des choses, c'est leur vérité pour l'intelligence, avec toutes les nuances. Il y a de belles nuances, de beaux coloris dans la nature, hein, encore plus que même dans les peintures humaines. Tous ces verts. Vous avez compté des fois les teintes de vert qu'il y a, c'est beau. Une forêt. On en voit, il y a pas mal ici. teintes de vert, il y en a combien ? Ah, avec l'œil humain. Et les teintes dans la vérité, ces nuances. Tu es un grand artisan, un grand peintre. Vérité suprême. Alors, sur quoi je m'appuie ? Quelle lumière ? L'autorité infaillible de Dieu qui révèle son autorité. Je crois parce que vous êtes vrai, vous avez l'autorité du vrai. Vous êtes la source de toute vérité, le soleil des esprits, dit saint Augustin. Voilà, je crois à cause de soi. Vous êtes la lumière, lumière de la lumière. Saint Augustin disait que la lumière, c'est le plus beau reflet sensible et créé. Ce qu'il y a de plus spirituel dans le matériel, dans le sensible, c'est la lumière. La lumière est évocatrice de spirituel, évocatrice de poésie, évocatrice de grandeur, de beauté. Un objet beau, il faut qu'il y ait de la lumière. Et cette lumière, elle se pose sur du vrai, du bien. Alors voyez-vous, quand nous avons la foi, nous connaissons celui qui est, c'est le nom propre du bon Dieu, je suis celui qui suis, à la lumière de celui qui est. Je suis celui qui suis, celui qui connaît, celui qui est vérité. Vous voyez un peu la certitude qu'il y a dans notre foi. Si on y pensait plus souvent, elle est très certaine, plus certaine que les vérités de la raison, notre foi. Pourtant, il y a des vérités certaines dans notre raison, malgré ce que diraient des philosophes tordus. Alors, il faut souvent, voyez-vous, être sous cette lumière. Alors, chose très importante ici, que j'espère ne pas avoir à redire pour les deux autres vertus théologales, il y a toujours un motif principal. Vous voyez, le motif principal, là, il est du côté justement de la coloration. Le motif premier, la couleur, c'est sous cette couleur, c'est cette couleur et sous cette lumière que je crois. D'abord, à cause de cette couleur et à cause de cette lumière. À cause de Dieu qui est vérité suprême et à cause de son autorité. Sa vérité, son autorité. C'est sous son autorité que je vois cette vérité. Et que cette vérité est vraie et bonne. Cette autorité est vraie et bonne. Bien, voyez-vous, dans les motifs de la foi, il n'y a pas que cela. Ça, c'est le motif premier, éminent, suréminent. Mais il peut y avoir des motifs secondaires. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous sentez que quand vous avez la foi, bien, vous avez une certaine paix dans l'âme. Ça vous met aussi dans une certaine humilité, parce que dire « Oh Dieu, quand même, est grand !» Et vous voyez, il y a la paix, cette humilité. Vous sentez qu'il y a quelque chose de convenable dans la foi. Vous sentez aussi, si vous faites un peu d'histoire de l'Église, que la foi a produit des biens naturels qui sont très beaux, très bons. Mais si vous n'aviez la foi qu'à cause de ça, par exemple, dans le cas, bon, je le cite ici parce que c'est un cas où on voit un peu ça, et ça a été son problème dans la foi. Il semble qu'il soit converti plus spécialement, qu'il était en prison après. Qui est vraiment le motif de la foi, est revenu. Sa foi, la foi de sa jeunesse soit revenue. Vous voyez, un Charles Maurras, il voyait la grandeur de l'Église, la grandeur de Jésus-Christ, la grandeur de la papauté. Mais ce n'était pas un acte de foi encore surnaturel. Il faut croire que Dieu est vrai à cause de sa vérité. Il voyait les effets naturels, donc Doulris, dans sa doctrine du naturalisme. Il voyait les effets naturels de la foi. Ce n'est pas encore la foi, mais ça va prédisposer ce qu'on appelle une apologétique de la foi. On voit que c'est beau la foi, que c'est grand la foi, que ça a des beaux effets. Mais ça, c'est que des vérités préparatoires. Vous voyez, ce qu'on appellera l'apologétique. Il est convenable de croire, mais ce n'est pas encore la foi. Mais on verra des convenances. Et pour notre vie individuelle, c'est pareil. Dans votre vie chrétienne, vous vivez votre foi. Alors, il y a la foi de l'enfant, la foi de l'adolescent, la foi de l'adulte. Est-ce que vous croyez assez parce que Dieu est vrai ? Je vois bien que c'est convenable que de la foi sorte une bonne organisation de vie, que ma famille, mes parents, mon éducation, grâce à la foi, je vois que c'est humainement convenable. Mais est-ce que c'est le motif formel ? Non, ce n'est pas le motif formel. Quand est-ce que ce motif formel de la foi va être pratiqué par vous ? C'est bon hein, de connaître les motifs secondaires et d'en vivre. Mais quand est-ce que vous allez grandir dans la foi ? Eh bien, quand Dieu va enlever les motifs secondaires pour que tu adhères à moi en tant que vérité. Et parfois, contre tes sens, et presque des fois, on le voit dans la vie des saints, plus spécialement des saints plus unis à Dieu, même contre l'évidence de ta raison. Oh, on voit ça dans les purifications qu'expliquent saint Jean de la Croix, saint Bonaventure, les grands saints de l'Église. Il y a un moment de leur vie, je dis, tout le monde n'est pas appelé à ça, avec
de façon plus ou moins aiguë. Mais en tout cas, tout chrétien qui est sanctifié, s'il veut se purifier dans la foi, on va enlever les alliages secondaires. Je crois plus parce que je le sens sensiblement. Je crois plus parce que je le vois même avec ma raison. Je crois parce que Dieu est vrai. Il l'a dit et c'est vrai. Je crois que pour ça. Alors nos purifications de la foi vont intervenir de ce côté-là. Comment dans cette situation Dieu agit ? Oui, il agit. Et la foi, il agit dans cette situation. Ah bon ? Dans la crise de l'Église, crise de société, crise de moi ? Oui, c'est moi qui agis. Bon, c'est pas facile. Oui, mais vous agissez, vous êtes vérité. Vous êtes vrai, je crois à votre parole. Oui, ça dans la vie des saints. Et c'est dans vos vies aussi. Comment je dois croire que Dieu, il permet ce qu'il y a en ce moment dans ma vie ? Oui, c'est Dieu qui est l'auteur principal de votre vie, vous chrétiens. C'est Dieu d'abord. Oh, c'est difficile à avaler. Ben oui, mais tu as ce qu'il faut pour l'avaler. Tu as une bouche suffisante et un estomac pour... Ah, mais c'est un peu... La digestion est un peu difficile, mon père. C'est difficile à digérer, cette épreuve. Et que c'est Dieu qui permet ça. Comment un Dieu si bon, il est encore bon en me faisant ça ? Oui, il est encore bon ! Au-delà de ce que tu peux penser. Ouais, ben en attendant, je sens surtout le mal. Hein. Ça fait mal. Dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps, oui. Mais Dieu te prépare un bien à travers ça. Sois patiente, sois persévérante. Et surtout la foi. C'est-à-dire que c'est Dieu qui agit. Il est vrai. Les promesses sont vraies. Tu es sur le roc infaillible de la vérité, par l'écriture, la tradition, Jésus-Christ. Alors Dieu va purifier les motifs secondaires. Donc comment déployer notre foi ? En nous attachant à faire souvent des actes de foi, alors on appelle ça la foi pure. Foi silencieuse, diront les saints. Foi pure, pas les alliages secondaires. Je crois parce que vous êtes vrai. Même si mes sens et ma raison disent le contraire, je crois parce que vous êtes la vérité même. Et c'est ce qu'il y a dans votre acte de foi que vous dites. Le motif est vivant vers son Dieu. Alors, des fois, c'est par notre effort personnel, nous appliquer à viser le motif principal de la foi. Puis, des fois, c'est le bon Dieu, et surtout le bon Dieu qui va faire ça, pour que le Saint-Esprit travaille plus, notamment avec les dons de sagesse, de science, d'intelligence, purifier les motifs secondaires. On va laisser tomber, là, les motifs secondaires. Ça peut arriver jusqu'à Saint-Thérèse d'Enfant Jésus. Je sens ce que je veux croire. Oh, j'ai plus qu'un tout petit acte de volonté, mais une grande lumière, je crois, mon Dieu. Oh, je sais même plus s'il y a le ciel, dit Saint-Thérèse d'Enfant Jésus. Vers la fin de sa vie. Mais je crois. Je chante ce que je veux croire. Foi héroïque, évidemment. Tout le monde ne sera pas appelé à ce type de foi, à ce type d'épreuve. Mais il y aura une purification de la foi, ça c'est sûr. Et si elle n'est pas finie, on l'achèvera au purgatoire. Purification de la foi. Dans les ténèbres du purgatoire. Que Dieu est la surlumière auquel on n'a pas assez adhéré, dont on n'a pas assez vécu, dans laquelle on n'a pas été assez plombé. D'où l'importance aussi, vous voyez, ça nous évitera cette déchéance de notre vie chrétienne qui s'appelle le sentimentalisme, le naturalisme, et même d'un certain point de vue, le surnaturalisme. Non, tout ça, c'est des erreurs. Et parce que c'est des erreurs, ce n'est pas la vérité. Naturalisme, trop accordé à la nature, nature individuelle ou nature collective. Sentimentalisme, trop de sentiments, de sensibilité dans notre foi. Elle n'est pas assez intelligente. Pas intellectuelle, hein ? Attention ! Vous n'avez pas d'autant plus de foi que vous êtes intelligent. Non, souvent, c'est l'inverse. C'est pas trop, pas forcément des grandes lumières. Hein. Petits enfants de Fatima, Sainte Bernadette, ce n'était pas quotient intellectuel 120. Hein. Ce n'était pas des imbéciles non plus. Attention, ne me faites pas dire ce qu'il n'y a pas dit. Ouais. Intelligence sain, bon sens, gros bon sens. Ouais. Parce que souvent, notre intellectualisme gêne notre foi. Ça veut pas dire qu'il... Donc je ne lis pas. Non, c'est pas ça que j'ai dit, attention. Donc il ne faut pas que je lise, il faut que j'ai une bêtasse. Non. Lisez votre catéchisme, formez-vous. Faites un peu de théologie à votre niveau. Pas un truc, on ne vous demandera pas un degré en théologie, mais connaissez bien votre catéchisme. Lisez les auteurs spirituels, grandissez dans votre foi, nourrissez votre foi, étudiez votre foi. Elle est belle, elle est sainte, elle est grande. Cherchez-y surtout la vérité, le motif éminent, suréminent. Cherchez-y la couleur de Dieu. Cherchez-y la lumière de Dieu. Adhérez à cette couleur et à cette lumière-là et vivez le reste de toute votre vie sous cette lumière-là, pas sous des motifs secondaires, au grand soleil de Dieu et dans la coloration des choses de Dieu. Oh, il n'y a plus beaucoup de temps pour l'espérance et la charité. Si, parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses qui vont nous servir. Votre espérance et votre charité est fondée sur la vérité première. Il n'y a rien de plus vrai
que les motifs objectifs d'espérer et d'aimer. Alors je vais vous redonner la même chose. Quelles sont les choses matérielles ou l'équivalent des choses matérielles avec l'œil de l'espérance? J'espère. Ah. Est-ce que c'est plus proche des yeux, des oreilles? J'espère. Ou de l'odorat? Bon, je ne sais pas. Peu importe. Les objets matériels de l'espérance. Je suis sûr et certain que je serai un jour au ciel. Oh, vous avez du culot! Par l'espérance, c'est ça, monsieur et madame! Par l'espérance, je suis sûr, je possède déjà le ciel. Je l'ai par la grâce et je l'aurai un jour par la grâce. Quelles que soient les choses trappes où je vais tomber d'ici ma mort. Mais surtout, donc d'abord, la fin. Je suis sûr qu'un jour, je glorifierai parfaitement Dieu et que je le posséderai, que je serai possédé par lui et qu'il me possédera. Et que je le posséderai. Et donc la fin, j'en suis sûr et certain par l'espérance. Et je suis sûr et certain que Dieu va me donner tous les moyens spirituels, temporels, dans cette vie dont j'ai besoin pour aller un jour au ciel. Sûr. C'est sûr et certain. Plus sûr que ma vie. Ça, c'est simplement le matériel. Plus précis. Alors, la couleur de l'espérance, ce qui joue le rôle des objets d'espérance. Sous quelle couleur? Eh bien, ça va être Dieu, toujours Dieu lui-même, comme la foi. Mais c'est plus seulement la vérité première. C'est, écoutez bien, le bien souverain, suprême, surnaturel, au-dessus de toutes les forces naturelles. Pourtant, c'est l'objet de votre, dans le combat spirituel, la défiance, confiance, absolument surnaturel. Mais surtout, ce surnaturel, il est souverainement désirable. Ce dont l'âme a le plus besoin, c'est de Dieu. Mon Père, j'ai soif de Dieu, j'ai faim de Dieu, donnez-moi Dieu. Voilà le langage de l'espérance. Vous connaissez cette histoire de ce gourou, son fils spirituel, le Shela, ce qu'on appelle. Mon Père, vous faites du bouddhisme ou de l'hindouisme? Non, 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 mais c'est une image naturelle. Mon Père, gourou là, je ne sais pas comment ils disent en hindou. Bon, peu importe. Donnez-moi Dieu. Comment il faut avoir soif de Dieu? Ah, tu veux avoir soif de Dieu, petit Dieu? Viens, mon fils. Viens. Viens par là. Viens près de la bassine, là. Ou viens près du fleuve. Comment il faut avoir faim et soif de Dieu? Mets ta tête là-dessous, là, dans l'eau. Pas assez. Ah, il enfonce. Oui, il m'a asphyxié, là, je vais me noyer. Mon fils. Quand tu auras soif et faim de Dieu, comme tu as besoin d'air dans tes poumons, c'est bon. Tu seras à bonne direction de Dieu. Des hindous qui nous disent ça. Hein. Encore, tu rentres souvent dans cette histoire-là. Un jour, donc, une dame, elle se rend, elle allait à Bombay, ou elle revenait de Bombay, je ne sais pas, et puis à côté, là, il y a un enturbané, là. Bon. Non, non, mais du pays, hein. Non, mais je ne dis pas ça pour mépriser. Il est un turban, d'accord, bon. C'est un hindou pratiquant. Il était assis à côté d'elle, une tradie. Ah, vous savez, le petit chariot. Ah, il y a des journaux, hein, Paris Match, Madame, je ne sais pas quoi. Hein. Figaro Magazine. Achète quelques petits... Hein, ou je ne sais pas si on les achète ou on vous les prête, je ne sais pas comment ça se passe. Bon, prends ça. Bon. Et puis, il y a des longues heures hein, pendant un voyage. Et on lit un peu conversation. Et elle apprend qu'il y a un doux pratiquant. Et lui demande, mais vous êtes catholique? Oui. Bon. Et catholique pratiquant? Oui. Ah, madame, je suis étonné que vous intéressiez à des bagatelles pareilles. Tout à l'heure, vous avez pris des journaux, là, etc. Mais ça ne sert à rien pour Dieu, ce truc-là. Oh là là, j'ai pris une leçon, là. Mets ça, ma petite amie, dans ta poche, là, dans ton sac à main, le mouchard par-dessus, et puis médite un peu là-dessus. Il peut y avoir une fin naturelle de Dieu dans d'autres religions. Alors, elle n'est peut-être pas éclairée, elle n'est peut-être pas ce qu'il fait, mais bon, des fois, on dirait. S'il était à ma place et moi à la sienne, il ferait mieux que moi. Hein, motif d'humilité. Bon, revenons à l'espérance. Petit détour, pour petite détente avant la dernière ligne droite. Stop à 100 mètres, là, dans 10-12 minutes. Bon. La couleur, Dieu lui-même, bien suprême, souverainement désirable. C'est pour ça que j'ai parlé de ça. Dieu souverainement désirable.
Le plus grand appétit de l'âme, c'est Dieu. La plus grande soif, la plus grande faim, le plus grand besoin d'air, c'est Dieu.
Qui renferme en lui toute perfection. Et nous l'envisageons en tant qu'un jour, nous le posséderons dans la vision béatifique. Un jour, je serai tout à Dieu.
Oh, comment c'est possible avec toutes ces épreuves encore qui peut-être m'attendent ?
Oui. Et Dieu sera là, toujours. Te portera, toujours. Même dans cette petite histoire. Dit, oui,
soi-disant tout le temps dans ma vie, hein, ben, y a des moments où il n'y avait pas que...
Il y a eu habituellement, ouais, 4 pas, ouais, dans l'ensemble. Mais des fois, hein, c'était que 2 pas. Il n'y en avait que 2 qui marchaient. Ouais, c'est moi qui te portais. Vous savez, cette histoire-là, dans la neige ou dans le sable, je ne sais plus exactement, peu importe. Et 4, il monte toute sa vie, il a passé. Il voit toujours 4 pas, puis à un moment, il n'y a plus que 2 pas.
Ah là, vous m'avez lâché, hein, vous m'avez lâché. Non, c'est moi qui te portais.
Ah, avec plus que 2 pas, ouais, c'est moi qui te portais. Bon, et la lumière, sous quelle lumière je vois ça? Comment je suis sûr et certain? Comment je peux espérer cette béatitude naturelle? Comment je peux espérer que j'aurai tous les moyens? Comment je peux espérer que celui qui est souverainement désirable, il accomplira parfaitement mon désir? Sous quelle lumière? Hein, vous souvenez toujours cette image de l'œil. Sous quelle lumière je vais voir ça? Ah! Un attribut de Dieu. Dans la foi, c'était Dieu vérité première. Et en lui, intelligence et être, il est celui qui est et celui qui connaît. Et la connaissance et l'être, en lui, c'est tout un. Il est vérité qui connaît, il est vérité qui fonde tout ce qui est. Eh bien, quel est l'attribut qui est visé par l'espérance? Mon Dieu, vous êtes la toute-puissance auxiliatrice et miséricordieuse. Vous êtes la toute-puissance auxiliatrice et miséricordieuse. Vous pouvez tout, tout ce que vous voulez, comme vous voulez, autant que vous voulez, par les voies que vous voulez. La toute-puissance auxiliatrice de Dieu. L'infinie miséricorde, infiniment miséricordieux jusque dans sa justice qui récompense ou qui punit, car la justice n'est pas que pour punir, elle est aussi pour récompenser les efforts, les désirs, les reprises, les sacrifices. La toute-puissance auxiliatrice de Dieu, infiniment miséricordieuse, est toujours fidèle dans ses promesses. Dieu tient toujours, toujours, toujours ses promesses. Dieu est l'infiniment fidèle. C'est une des plus belles leçons que nous puissions tirer de la lecture de l'Ancien et du Nouveau Testament. Dieu accomplit toujours ses promesses et elles sont accomplies en Jésus-Christ, accomplies dans l'Église et elles seront accomplies un jour définitivement dans le ciel. Nous sommes certains du sens de l'histoire, certains. Quel que soit les combats, les apparentes victoires du démon et de ses alliés et de ses suppôts, individuels ou collectifs, c'est Dieu qui aura le dernier mot. Parce que Dieu est la toute-puissance, auxiliatrice, très miséricordieuse, infiniment fidèle. Comment développer notre espérance? Eh bien, précisément, voyez-vous, toujours, quel est le motif principal? Dieu souverainement disait, toute-puissance, auxiliatrice. Mon Dieu, répétez souvent. Dans les situations même les plus pénibles, les plus difficiles, les plus apparemment éloignées de Dieu, situations de péché, pour vous ou pour d'autres. Pour d'autres aussi, hein, faut savoir espérer pour les autres. Est-ce que nous espérons assez pour les autres? Il se convertira, parce que Dieu l'aime. Je crois à ça. Je ne sais pas comment vous allez vous prendre. Hein, parce que même moi, je suis un obstacle à sa conversion, peut-être. Mais vous, Seigneur, vous allez le convertir. Et vous me disposerez à faire ce que je dois faire ou ne pas faire pour que cette personne se convertisse. Parce que vous l'aimez et vous avez payé avec votre sang et les larmes de Marie. Donc, chut. Ouais, cette âme, j'ai du mal à la voir. Hein. Je t'attends à ta dernière porte d'agonie, mon ami. Je ne sais pas ce que le bon Dieu va faire d'ici là. Mais en attendant, je vais accumuler, d'où, grande dévotion aux agonisants. Il faut que j'ai une grande dévotion. Pourquoi? Parce que les âmes qu'on n'a pas su avoir... Pendant toute une vie, peut-être qu'au dernier moment, Dieu il va envoyer brrr, ce qu'il faut, là. Paf, il va taper où il faut. Et la personne va être complètement retournée. Donc, grande dévotion, à cause de l'espérance, entre autres, et encore plus à cause de la charité, aux agonisants. Il faut prier beaucoup pour les mourants. Prions pour les mourants. Vous voulez faire une bonne mort? Priez pour les mourants. Comment développer? Eh bien, de faire des actes d'espérance là où apparemment il n'y a plus rien à espérer. Des situations apparemment, c'est bouché. D'où ça va sortir? D'où va sortir la lumière de Dieu là-dedans? C'est complètement bouché. Plein de résistance, plein de nœuds. C'est pas mal, Notre-Dame des nœuds. C'est bien trouvé. Au Brésil, là, on a eu cette grande dévotion. Nossa Senhora dos Neixes, ils disent. Un petit hôtel à chaque Notre-Dame des nœuds. Il y en a des nœuds. Hein. Ouh là là, oui, oui. Ouh là là, il y en a des nœuds dans nos vies. Familiales, quoi. Cette situation, comment tu peux permettre ça quand même? Et dans ma vie, ou ce péché là, qui continue là, qui est toujours là, dans la vie des autres, ou dans mon pays, notre pays qui est en état de péché mortel habituel, notre église, corruption. Comment Dieu peut permettre? Mon Dieu, je crois, j'espère, vous êtes la toute-puissance auxiliatrice, vous triompherez de tout. Toujours, quand vous voudrez, au moment où vous voudrez. Je suis sûr de vos victoires que je peux lire dans le livre de l'Apocalypse. La bête aura beau envoyer son flot de... Le dragon, son flot d'impureté, de blasphème et de toute cette malice du péché, toute cette haine de Dieu. Vous triompherez de tout ça. Vous triompherez de tout ça. Je suis sûr. Alors, faire souvent des actes d'espérance, même et surtout à l'occasion des situations les plus désespérées. Nous sommes en mal d'espérance. Alors il faut aussi, avec l'espérance, souvent, le don de crainte de Dieu. Non pas craindre. Vous voyez, on dit, les saints ont eu cette invocation très, un peu déroutante. Plus j'espère, plus je désespère. Plus je désespère, plus j'espère. C'est un paradoxe. Plus j'espère en Dieu, plus je désespère de tout ce qu'il y a de créé. Rien de créé ne peut me donner Dieu. Donc je désespère de tout le créé, de tout ce qu'il y a de meilleur sur terre. Peut-être même je souhaite à personne d'être déçu par un prêtre ou par une chose assez souhaitable à personne, par les choses les plus saintes, apparemment les plus sacrées. On peut être déçu, les gens qui ont été déçus par la crise d'église, déçus par l'attitude ou du pape, ou des évêques, ou des cardinaux, ou des prêtres, ou que sais-je, des choses les plus saintes, déçus. Eh bien, il faut continuer d'espérer à cause de Dieu. Mon Dieu, vous guérirez l'Église. Mon Dieu, vous éclairerez le pape. Mon Dieu, vous convertirez les prêtres. Mon Dieu, vous appellerez des prêtres. Vous ferez tout, mon Dieu. Mon Dieu, vous amènerez des âmes consacrées, des âmes qui vous glorifieront magnifiquement. Mon Dieu, nous arrivons vers la fin des temps. Vous allez faire les plus grands saints qu'on n'a jamais vus. On n'a jamais vu des saints comme ça. Oh. Saint-Louis-Marie, non, mon fort, nous le dit. Le Père Colme nous le dit. Le Padre Pio, les plus grands saints sont pour la fin des temps. Pourquoi? Parce qu'il faudra, en face des ennemis, il faudra qu'il y ait des géants. Des géants d'humilité, d'amour, d'espérance. Alors, chers amis, vous êtes arrivés là, avant la retraite, là, dans vos bagages, dans votre tête, dans votre cœur, un tas de trucs qui sont désespérants, décourageants, qui vous mettent en chagrin quand vous y pensez, vous avez envie de vous jeter par-dessus le pont, ou pendre avec une corde. Faites surtout pas ça, hein! Le bon Dieu espère plus que vous. Et il a tous les moyens pour vous faire réussir ce qu'il souhaite pour vous. Alors vous avez posé des actes d'espérance et divine. Mon Dieu, cette situation est impossible, il n'y a pas de solution humaine, pas de solution angélique, même pas angélique. Ah, il y a les plus saints, même les anges du ciel. Il n'y a qu'une solution divine à ce que vous me demandez là, ce que vous voulez à travers ça qui me fait tant souffrir. Vous êtes Seigneur, à l'occasion de cette situation pleine de nœuds, pleine de difficultés, vous êtes la toute-puissance auxiliatrice, très fidèle dans ses promesses. Je suis sûr que cela va aboutir à un bonheur absolu à travers tous les moyens, les chemins que vous avez prévus. Mais le bonheur absolu, j'en suis sûr. Et les moyens pour ce bonheur absolu, j'en suis sûr. Oh, si peu de temps pour la charité. Bon. Voyez déjà que dans la foi et la charité, et l'espérance, que Dieu est bon. Il a donné ça à nos intelligences. Il a donné ça à notre cœur, à notre volonté, l'espérance, à notre intelligence. La vérité sûre et certaine, sa vérité à lui. Oh, quelle joie. Merci mon Dieu, comme vous nous aimez. Il a donné la toute-puissance auxiliatrice, tous les moyens, les sacrements, une mère, une société, des prêtres, des sacrements, des aides intérieures par l'Esprit Saint. Vous nous sauverez, mon Dieu. Un jour, j'habiterai au ciel, dans le bonheur absolu, avec tous ceux que j'aime. Vous le voulez plus que moi, vous avez plus de pouvoir que moi. Vous le savez mieux que moi, mon Dieu. comme vous nous aimez. Alors le motif principal, on reprend. Ah. Les objets matériels de la charité, de l'œil de la charité, de l'oreille de la charité, le cœur qui voit et qui entend et qui parle aussi, car le cœur a sa voix. Objet matériel de la charité. Tous ceux qui peuvent être objets d'un amour surnaturel. Alors d'abord le bon Dieu, aimé pour lui-même. Et à cause de cet amour de Dieu, tous ceux que Dieu aime déjà et tous ceux qui pourraient éventuellement l'aimer. Faites attention à ça, hein. Tous ceux qui aiment Dieu déjà et pourraient éventuellement l'aimer. Dieu, il aime tous comme créateur, c'est sûr, comme créateur. Mais il y en a qui répondent, d'autres qui ne répondent pas au plan surnaturel. Mais ils y sont peut-être appelés. Saint Augustin disait, méfie-toi, toi qui es dans la grâce, dans l'amour de Dieu, un tel qui ne l'est pas en ce moment parce qu'il est païen, etc. Peut-être que si tu n'es pas fidèle à ta grâce, il prendra ta place à toi. Et puis toi, tu seras à la sienne. Et peut-être que même s'il était à la mienne, tu aimerais plus, il aimerait plus Dieu que toi. Comme c'est un doux, là, tout à l'heure. Donc, j'aime Dieu en premier lieu, et en raison de cet amour de Dieu, tout ce qu'il aime. Et le bon Dieu, il aime le païen, il aime le pécheur, il aime celui qu'il ne connaît pas, celui qu'il n'aime pas. C'était la raison de nos missionnaires, de nos martyrs. Voilà, tout ce qui est matériellement, nous pouvons aimer. Spécialement les êtres humains, bien sûr. Mais aussi tout ce qu'il aime, sa création. C'est beau de voir certains saints, comme Saint-Martin de Porres ou d'autres, ils allaient jusqu'à aimer des animaux, et ils disaient même des animaux pas très agréables, hein. Pour que ça ne gêne pas le couvent, il allait donner des petites nourritures aux souris, aux rats. C'est pas très... C'est des êtres de Dieu. Alors bien sûr qu'à cause du péché originel, ils font du mal aux hommes. Bon, c'est clair, il y a du désordre dans la nature. Mais ils voyaient la lumière de Dieu. Saint François, mon frère, ma sœur, les oiseaux, les... Ouais, mais même le serpent, c'est mon frère. Bah oui, je préfère qu'il soit un peu loin. L'ami, mais de loin. Les araignées, ouais, Créature de Dieu. Enfin, ce n'est pas l'objet premier de votre charité pour le prochain, on est d'accord. Hein. Et ne comparez pas votre prochain à des animaux de toute espèce, ceux que vous n'aimez pas surtout. Alors, l'objet matériel, tous ceux que nous pouvons aimer d'un amour surnaturel, Dieu lui-même, et en raison de Dieu, tous ceux qui l'aiment déjà ou pourront éventuellement l'aimer. Maintenant, la couleur de cette vertu, ce qui joue le rôle de la couleur, sous quelle couleur ? C'est un peu difficile à voir la nuance avec l'espérance. Dieu lui-même entend qu'il est la bonté, la bienveillance, la bienfaisance souverainement aimable. Dieu est aimable en lui-même. Il a en lui-même toute perfection, il a toute bonté, il est la bonté, il est la bienfaisance, il est la bienveillance. Il est tout ce qu'il y a de bon. Dieu est aimable en lui-même a priori. Ouais, il m'impose des choses bien désagréables. Comment je peux l'aimer alors que des fois j'ai l'impression que c'est un tyran et quelqu'un qui est en train de me discipliner dur, me corriger. Mon Dieu, vous restez la bonté. C'est un peu dur ce que je suis en ce moment. Cette souffrance, cette épreuve, cette tentation. Mais moi, je suis sûr et certain, par la foi, par l'espérance, et encore plus par la charité. Vous m'aimez, mon Dieu. Vous m'aimez infiniment. Ouais, je voudrais qu'il m'aime un peu moins. Hein. Certains m'ont dit ça. Ouais, des plus grandes épreuves, peut-être parce que bon Dieu vous donnez des plus grandes grâces. Je trouve qu'il m'aime d'un peu trop près. Il le disait avec... c'est amusant, ça. Il avait des difficultés physiques et maintenant un peu même mentales, mais... Il me sert un peu trop, le bon Dieu, mon père. Il m'aime un peu trop. Avec tout ce qu'il m'envoie dessus, il m'aime un peu trop. Non, mais je disais ça en riant et... c'était édifiant. Couleur. Souveraine bonté. Alors, adhérer au métier principal. Quand vous voyez des bonnes choses et bien fait, dire... Pensez surtout à la source qui donne ce bienfait. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ça dans l'ordre humain. On vous fait un cadeau, quel qu'il soit, vient de vos enfants, de vos amis, etc. Vous avez remarqué que souvent, nous sommes attentifs au cadeau et, si nous avons un peu de délicatesse, noblesse de cœur, encore plus à l'élan du cœur qui a offert ce cadeau. Les deux nous touchent. Parfois, on serait presque à passer du cadeau à cause du mouvement du cœur. Il a pensé à moi. Ça nous touche. Avec Dieu, il faut faire pareil. Soyons touchés de ses cadeaux, attachons de l'importance à ses cadeaux, gardons ses cadeaux, faisons fructifier ses cadeaux, mais surtout, voyons le cœur qui est derrière, qui nous les a donnés. Et ce cœur, il est toujours disposé à nous aimer, il nous aime infiniment. Ah, la dernière vérité, peut-être. Ah, faut que je donne aussi, pas que la couleur, faut que je vous donne la lumière. Sous quelle lumière? Je vous donne la lumière, puis je terminerai par la dernière vérité, qui, à mon avis, est la plus importante, qu'il faudrait, autour de laquelle devrait tourner toute notre vie spirituelle, et même notre vie de péché. Alors, je donne le dernier point, là, en 3 minutes. Je vous donne la lumière sous laquelle nous aimons Dieu, puis je vous donne cette vérité-là, qu'il faut que vous y repensiez. Je vous demande d'y croire au nom de la foi, au nom de l'espérance, au nom de la charité divine, surnaturelle. Cette dernière vérité que je vais vous donner. Alors, sous quelle lumière? Le motif d'aimer Dieu qui nous est donné par la foi, qui est encouragé par l'espérance, c'est l'amabilité divine qui nous attire à l'aimer. Dieu est aimable en lui-même, indépendamment même de ses dons, il est aimable. Il est a priori bon, a priori aimable, a priori nous donnant son amour et voulant recevoir le nôtre. Alors, dernière vérité, capitale, hein. Capitale, c'est là. Si c'est là, on pouvait en vivre pratiquement pratique dans notre vie, on aurait déjà les ailes qui pousseraient comme des séraphins. Bon. Vous venez de commettre un péché. Petit, grand. Ah. Est-ce qu'après ce péché, le bon Dieu vous aime moins? Vous venez de faire un acte héroïque. Pas mal. La canonisation n'est pas loin. Est-ce que bon Dieu vous aime plus? Alors, je vais vous dire quelque chose de très important. Très, très important. Je demanderai peut-être des précisions théologiques, mais les précisions théologiques, je vous ferai que mieux voir la vérité et non pas la compliquer. Que vous soyez très fidèle à l'amour de Dieu, ce qui est très souhaitable pour devenir des saints, que vous soyez actuellement en état de voie, ce qu'on appelle, et puis, malheureusement, en état de voie, ouais, mais dans les trous, mon père. Hein. Puis même dans le précipice. Hein. Puis je ne sais pas comment je vais sortir de cette crevasse. Bon. Dans le péché mortel, état péché, là, vous êtes vraiment au dernier degré, objet de la miséricorde surinfinie de Dieu. Dieu, il aime plus, il aime moins. Il a un potentiomètre, le bon Dieu, là. T'es gentil, je t'aime beaucoup. T'es pas gentil, je t'aime pas beaucoup. Stupide. Ça, c'est notre amour humain qui fait comme ça. J'aime quelqu'un parce que je vois du bien en lui, naturellement. Et parce que je vois du bien, je l'aime. Dieu, c'est pas ça. Nous aimons les choses parce qu'elles sont bonnes. En Dieu, c'est pas du tout ça. Les choses sont bonnes naturellement et bonnes surnaturellement parce qu'il les aime. Pourquoi le bon Dieu nous aime? Parce qu'il nous aime. Il n'y a pas d'autre raison. Aucune autre raison. C'est pas nos beaux yeux, c'est pas notre bonne âme, c'est pas nos vertus. Dieu nous aime parce qu'il nous aime. Très important ça. Pour votre sainteté, pour rester humble, si vous êtes déjà bien sainte, tant mieux. Pas pour vous envoyer des coups d'encensoir, ça fait des bosses après. Dans la figure. C'est peut-être très pécheresse. Objectivement et subjectivement, Dieu nous aime toujours d'un amour total. Mais alors quand je pèse, mon Dieu, il m'aime encore toujours. Oui, plus que jamais peut-être. Au fond du trou, plus que jamais. Pourquoi? Parce que tu vas lui donner occasion d'envoyer un rayon de sa miséricorde, qui est le fond de son être, saint Thomas nous le dit. Le fond de l'être de Dieu, c'est sa miséricorde. Essentiellement, il est miséricorde. Miséricorde de la création, miséricorde de la rédemption. Miséricorde de la sanctification. Essentiellement, il est miséricorde. Tu vas lui donner occasion d'envoyer un rayon de sa miséricorde. Il faut que tu reçoives ce rayon de miséricorde qui va te recréer, qui va te re-racheter, te re-rédimer, te re-sanctifier. Dieu t'aime toujours, totalement, à tout moment. Alors qu'est-ce qui se passe quand j'ai refusé, je me suis attaché à un bien plus qu'à Dieu, dans un péché grave, par exemple? Oh, ben c'est tout simple. C'est toi qui as envoyé le nuage, peut-être à l'inspiration du démon, ou du monde, ou de ta faiblesse intérieure. Toi, tu as mis un nuage. Mais le soleil de son amour, la lumière de son amour, la chaleur, elle est toujours là. Ah, il y a un nuage, c'est lui qui va le dissiper d'ailleurs, par les sacrements, par ta contrition. Mais c'est lui qui va envoyer. Mais lui, son soleil, son amour, toujours total, toujours. Le soleil brille, toujours. Ah, les rayons ne viennent pas jusqu'à nous, parce que nous mettons quelque chose entre ces rayons. Le démon, le monde, notre faiblesse, etc. D'où un grand travail pour nous détacher ce qui empêche, ce qui va faire écran. Mais bon Dieu nous aime toujours, à tout instant et totalement. Pas besoin de potence. Oui, mais quand même, mon père, il y en a qui l'aiment plus que d'autres. Ils nous aiment tous, mais les plus grands saints, ils semblent plus les aimer. Oui, mais c'est à raison de ce qu'ils ont fait de bien? Non, c'est parce que lui a mis en eux quelque chose qui a donné une raison. Ils ont correspondu avec leur liberté, hein, d'accord, il faut correspondre aussi, bien sûr. Ils sont détachés pour recevoir tout cet amour. Mais Dieu les a toujours aimés, toujours totalement. Et plus ils ont cru que cet amour était toujours et total et parfait, et plus ils se sanctifiaient, et vite. Dialogue de saint François de Sales avec une religieuse. Mon père, moi je fais beaucoup d'actes d'humilité pour arriver à aimer Dieu. Ma sœur, c'est bien, mais je pense que ce serait mieux pour vous, saint François de Sales. Pour ma part, je trouve une voie plus sûre. Je cherche à aimer Dieu, et je sais que cela me rendra humble. Cherchons à aimer Dieu, qui aime toujours et totalement, et qui par son amour veut mettre les vertus qui glorifieront son amour. Dieu nous aime toujours et totalement, toujours, à tout instant. Et pourquoi dans le péché ou dans la tentation, nous sommes si faibles? Parce que nous oublions ça. Dieu, évidemment, le démon, il accumule des nuages noirs autour de notre foi pour qu'on ne voit plus que Dieu est vérité, et que c'est vrai que ça, c'est une tentation et derrière un péché qui va faire beaucoup de mal à Dieu et à toi. Et puis, mais aussi l'espérance. Oh, c'est pas possible de résister à une telle tentation. Si, il y a ce qu'il faut pour résister. Et puis surtout, il ne faut oublier que Dieu est bien plus aimable que cette satisfaction sensible ou morale ou enfin psychologique qui nous est présentée dans la tentation. Dieu est bien plus aimable que tout ce qu'il y a de créé sur terre. Quelle que soit la nourriture présentée à nos sens ou à notre intelligence et surtout à notre mauvaise volonté, il faut que j'arrive à dire à travers cette créature humaine ou simplement naturelle qu'elle est infiniment moins aimable que Dieu. Donc, il la repousse. Bon Dieu veut, souvent, il nous permet des tentations, même des longues tentations qui durent pour qu'on fasse des actes de plus en plus forts et des actes finalement définitifs qui vont faire que cette créature, je ne veux plus l'idolâtrer. Alors, parfois, c'est encore plus grave, c'est le moi qu'on idolâtre, ou telle personne, ou tel objet, ou telle activité. Dieu veut faire produire des actes de plus en plus intenses pour que vous adhériez au motif suprême, suréminent. Dieu est infiniment aimable en lui-même. Même si je ne sentais que du mal de la part des créatures, Dieu reste infiniment aimable en lui-même. J'y crois, je crois à cet amour et je veux vivre de cet amour, qui est toujours total à tout moment. Pas de potentiomètre ni de volume avec le bon Dieu. Toujours au maximum. Et son amour devrait nous percer les tympans de l'âme. Il nous aime toujours, à tout instant, totalement. À nous d'essayer de répondre à cette retraite et notre vie. Demandons ça à la Sainte Vierge.